Voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Les premiers bracelets anti-rapprochement vont être déployés aujourd'hui. Promis pour lutter contre les féminicides, ce dispositif doit tenir éloignés les conjoints ou anciens conjoints violents. Et vous le comprendrez, la France a plus de 10 ans de retard sur son voisin espagnol.
Dans ce journal aussi, la réponse du Premier ministre aux restaurateurs marseillais qui dénoncent la fermeture de leurs établissements. Jean Castex promet que l'État les aidera encore financièrement.
La première usine de viande végétale est lancée en France. Elle est soutenue par l'entrepreneur Xavier Niel, mais elle est décriée par les éleveurs, vous l'entendrez.
Et puis nous irons aux États-Unis où Donald Trump tenait un meeting en Floride cette nuit.
Donald Trump qui veut dénouer le contentieux américain avec le Soudan avant la présidentielle pour pouvoir signer un succès international. Explication à suivre. C'est un dispositif réclamé depuis des années pour lutter contre les violences faites aux femmes. Le ministre de la Justice le présente comme une avancée fondamentale pour la protection des victimes. Le bracelet anti-rapprochement peut être utilisé à partir d'aujourd'hui. C'est inscrit au journal officiel. Dans un premier temps, il n'est disponible que dans 5 juridictions, Angoulême, Bobigny, Douai, Pontoise et Aix-en-Provence. Le dispositif est visiblement long à mettre en place, Marc Potvin.
C'était une promesse du Grenelle pour lutter contre les féminicides. Entre cette promesse et aujourd'hui, il s'est écoulé près d'un an. Un délai que déplore Françoise Brier, directrice de la Fédération Nationale Solidarité Femmes.
Le regret qu'on peut avoir, c'est qu'effectivement ça n'a pas été plus vite, d'autant que c'est un bracelet qui était réclamé d'ailleurs par plusieurs juridictions depuis plusieurs années.
Françoise Brier reconnaît que la crise sanitaire n'a pas arrangé les choses. Aujourd'hui, elle pense surtout au soulagement des victimes.
Beaucoup de femmes disent qu'elles ont besoin de ces dispositifs de sécurisation pour leur situation et surtout elles trouvent logique que finalement ce soit aussi l'agresseur qui soit responsable de ce dispositif anti-rapprochement. L'alarme sera déclenchée par l'agresseur dans la mesure où il s'approchera de la victime et derrière il y aura une réaction des forces de l'ordre.
L'arrivée de ce dispositif est aussi saluée par Luc Frémiot, ex-magistrat très investi dans la lutte contre les violences faites aux femmes, mais il s'interroge toutefois sur le nombre de bracelets disponibles pour l'instant.
Les statistiques parlent de 400 000 femmes battues de manière régulière. Imaginez ce que représentent 1000 bracelets anti-rapprochement dans un tel contexte. Comment on fera d'ailleurs avec 1000 bracelets pour le nombre de juridictions? J'ai pas calculé ce que ça représente au prorata, mais ça fait pas grand-chose.
De son côté, le ministre de la Justice assure que la lutte contre les violences conjugales demeure l'une des priorités du gouvernement. Il promet que le bracelet anti-rapprochement sera généralisé à l'ensemble du territoire. Au 31 décembre.
La France se met donc dans les pas de certains de ses voisins européens. En Espagne, par exemple, cela fait déjà 11 ans que les juges utilisent ce bracelet anti-rapprochement pour les conjoints ou ex-conjoints violents. Les Espagnols peuvent donc prendre un peu de recul sur ce dispositif, Mathieu de Taillac.
C'est en 2009 que le gouvernement espagnol a permis aux juges d'imposer des bracelets anti-éloignement, une mesure parmi d'autres que peuvent réclamer les parties civiles. Entre 2009 et 2019, 6678 bracelets ont été posés sur des hommes condamnés pour violence de genre, le terme utilisé en Espagne. Une bonne partie, bien sûr, ont été retirés une fois la peine purgée. L'an dernier, 1200 bracelets étaient actifs à travers le pays. Les juges donc sollicitent le dispositif, mais celui-ci n'est qu'un instrument qui complète la très grande boîte à outils qu'avait instituée la loi intégrale contre la violence de genre préparée par le gouvernement socialiste de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004. L'Espagne consacre chaque année 200 millions d'euros à cette politique d'État qui fait consensus parmi les partis politiques à l'exception de Vox à l'extrême droite. Les victimes apprécient le sentiment de sécurité que leur procure le bracelet, mais des effets pervers peuvent également exister, la peur notamment quand l'ex-conjoint se rapproche, volontairement ou non, au-delà de la limite légale. Depuis le début de l'année, 33 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint en Espagne. C'est le chiffre le plus bas depuis 10 ans sur cette période. La courbe connaît toutefois d'importantes variations, à la hausse comme à la baisse, d'une année sur l'autre. Aujourd'hui, les collectifs féministes appellent à ne pas juger l'efficacité du dispositif seul, mais plutôt l'ensemble des mesures prises pour faire descendre les féminicides.
Mathieu de Taillac à Madrid pour France Culture. La capitale espagnole espagnol qui est par ailleurs toujours sous le coup de restrictions de mouvement à cause du Covid-19. L'Espagne pourrait en annoncer de nouveau aujourd'hui, annoncer l'extension de ces mesures de restriction de confinement pour d'autres zones du pays en dehors de Madrid. L'agence européenne chargée de surveiller les épidémies a fait état hier de sa grande inquiétude. Notez d'ailleurs qu'en France, hier, 16 000 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés. C'est un record depuis le lancement des tests à grande échelle dans le pays. Alors pour endiguer cette hausse, le gouvernement multiplie les restrictions, nous l'évoquions hier. Dans la soirée sur France 2, le Premier ministre Jean Castex a répondu aux élus et aux restaurateurs de Marseille qui dénoncent depuis hier matin un reconfinement économique. Jean Castex, en répondant à une professionnelle, a promis des exonérations de charges.
Vous pouvez refaire appel au chômage partiel, ce qui ne vous coûtera rien. En plus, nous avons décidé d'exonérer vos charges sociales correspondant à la période où vous serez fermé. Troisièmement, je ne sais pas si vous aviez été éligible à un dispositif qui existe, qui s'appelle le Fonds de solidarité pour les entreprises, qui donnait lieu à une aide jusqu'à présent de 1 500 euros par mois. Nous avons décidé d'augmenter cette aide, madame, pour couvrir vos charges fixes jusqu'à hauteur de 10 000 euros pendant la période où vous serez fermé. Il n'est pas question que vous subissiez les conséquences de ces mesures sanitaires indispensables.
Voilà, c'était le Premier ministre Jean Castex qui répondait aux restaurateurs qui doivent fermer leurs établissements dans la métropole d'Aix-Marseille et en Guadeloupe à partir de la nuit prochaine. Le président de la région PACA, Renaud Muselier, va déposer un recours devant le tribunal administratif contre ces fermetures de bars et de restaurants. Au chapitre des mesures de confinement encore, les piscines couvertes doivent fermer, tout comme les salles de sport et les gymnases dans toutes les grandes métropoles à partir de lundi. Sur le SARS-CoV-2 et la question de l'évolution de ce virus, de sa possible mutation, vous pouvez retrouver ce matin la radiographie du coronavirus de Nicolas Martin. Une question du jour à réécouter en podcast. Autre annonce faite par le Premier ministre hier, une hausse du budget pour la justice, hausse de 8% l'année prochaine. Une partie de cette enveloppe financera des juges pénaux de proximité pour pouvoir traiter les petits délits. Voilà donc pour la prestation de Jean Castex hier soir. Frédéric Seyss analysera tout cela dans son billet politique à Presse Journal. Jean Castex, moins populaire que son prédécesseur Édouard Philippe. Lui a quitté son poste il y a maintenant 3 mois. Et depuis la rentrée, il multiplie les apparitions médiatiques. Ce soir, par exemple, il sera à Angers sur invitation d'élus de droite et de centre-droit, l'association La République des maires, Stéphane Robert.
Édouard Philippe adopte la stratégie des cartes postales, titre le journal Le Monde dans son édition d'aujourd'hui, faisant référence aux apparitions médiatiques de Nicolas Sarkozy en 2014-2015 quand il préparait son retour. Ça n'a rien à voir, explique aujourd'hui son entourage, et la différence réside dans le fait qu'Édouard Philippe n'a pas d'agenda. Il est libre, reprend un de ses proches, il dit ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut, mais il reste un personnage politique et il a envie de continuer à exister politiquement. La seule contrainte qu'il se fixe, nous assure-t-on, est qu'il ne veut pas gêner l'action de son successeur au gouvernement, ni d'Emmanuel Macron. Certains lui prêtent des ambitions, pas forcément pour tout de suite, pour 2027, et éventuellement pour 2022, si l'actuel président n'était pas en mesure de se représenter. Mais on n'en est pas là. Il sait évidemment qu'il a acquis une stature nationale après 3 ans à Matignon et beaucoup lui prédisent un avenir présidentiel. Mais il sait aussi qu'une part importante de sa crédibilité politique s'est construite sur sa loyauté envers Emmanuel Macron, qu'il a brandi comme un étendard et il ne pourra pas s'en affranchir sans abîmer gravement son image dans l'opinion. La question est donc plutôt de savoir s'il apportera son aide, sa contribution à la réélection d'Emmanuel Macron. C'est ce que lui a demandé le chef de l'État quand Édouard Philippe a quitté Matignon. Et jusqu'ici, celui qui est redevenu maire du Havre lui a fait une réponse de Normand. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non.
Stéphane Robert pour France Culture. La FNSEA, premier syndicat agricole, dénonce la présence de Xavier Niel dans l'entreprise Les Nouveaux Fermiers. Cette nouvelle société veut produire de la viande dite végétale en France. L'entrepreneur Xavier Niel est accusé de mélange des genres car il est aussi l'un des initiateurs du référendum pour le bien-être animal. Or, pour les agriculteurs, il participe avec la viande végétale aux difficultés de l'élevage en France. Tout cela pour profiter d'un marché potentiel de plusieurs milliards d'euros, Anne Lorchouin.
À coup d'investissements coûteux et de brevets jalousement gardés, plusieurs startups sont désormais en mesure de proposer des aiguillettes de maïs, des nuggets de petits pois ou des steaks de blé qui y ressemblent à s'y méprendre à de la viande. Les nouveaux fermiers, financés par le fonds d'investissement de Xavier Niel, Kim Aventure et la Banque publique d'investissement, seront donc les premiers fabricants de ce type de produits à échelle industrielle sur le territoire français. Une nouvelle qui fait grincer des dents le monde de l'élevage, notamment à cause du nom qui associe l'image du fermier à une production très transformée. Alexandre Armel, éleveur de bovins dans l'Allier, est responsable de la section viande de la coordination rurale.
On utilise aujourd'hui le terme fermier, le terme de steak, de saucisse, de nuggets. Donc ces termes-là, normalement, doivent être attribués à des produits carnés. Ce ne sont pas des fermiers. Le terme fermier, il me semble, il y a une loi qui l'encadre. En creusant un peu, je pense que M. Niel sera obligé à terme de changer ce terme.
Les fondateurs de cette usine dont le site est tenu secret promettent à terme 100% de céréales françaises pour leurs matières premières. Et c'est l'autre critique faite par les éleveurs pour s'approvisionner en protéines végétales et sortir des produits compétitifs. Les nuggets nouveaux fermiers coûtent pour l'instant 3 fois le prix de nuggets de poulet. Il faudra soit importer, soit cultiver de façon intensive, ce qui n'est pas sans causer de dégâts sur les populations animales, dans les champs et les prairies. Plusieurs études menées sur des exploitations de céréales américaines et australiennes ont démontré qu'entre les semis, les pesticides et la moisson, ce sont parfois plus de 75% de ces animaux, rongeurs et oiseaux, qui sont tués par les cultivateurs.
Penchons-nous à présent sur un combat qui date de 1945, fin de la Seconde Guerre mondiale. Depuis 75 ans maintenant, des centaines de milliers de biens spoliés aux Juifs n'ont toujours pas retrouvé leurs propriétaires ou descendants. Maxime Fayol a enquêté pour le grand reportage de la rédaction de France Culture ce vendredi. Il a notamment rencontré Emmanuel Polak, docteur en histoire de l'art, pour qui ces spoliations sont le symbole du projet nazi.
Ces spoliations participent pour moi d'un processus qui va de la stigmatisation d'une population à son pillage par l'armée d'occupation, sa confiscation par les mesures antisémites de Vichy, son internement dans les camps français, jusqu'à l'extermination. Et c'est pour cela que on doit maintenant faire les choses de façon beaucoup plus sérieuse et travailler sur les recherches de provenance. Or, on a véritablement reparlé de l'Holocauste ou de la Shoah que dans le mi-temps des années 75. C'est très très important d'avoir cette historiographie de la Shoah. Donc dans les années 50, 60, 70, le marché de l'art ne s'intéresse pas du tout à ce sujet. Et certaines œuvres ont été achetées en toute bonne foi, mais sont entachées de spoliation. Et cette spoliation, cette tâche intégrée à la traçabilité de l'œuvre, eh bien, elle doit faire émerger la vérité pour le souvenir et la mémoire des familles.
Spoliation des biens juifs, une trop lente réparation. Voici donc le grand reportage de Maxime Fayol que nous retrouverons ce soir entre 17 et 18 heures. Il a été réalisé grâce à Annie Brault et sera présenté par Aurélie Kiefer.
8h12 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal, une manifestation a de nouveau eu lieu à Louisville, dans le Kentucky.
Oui, dans cette ville des États-Unis où l'afro-américaine Breonna Taylor a été tuée par des policiers. Ils n'ont pas été inculpés pour homicide cette semaine. Hier, 127 interpellations ont eu lieu lors d'un rassemblement. 2 policiers ont été blessés. Manifestation plus calme a priori cette nuit. Pendant ce temps, Donald Trump poursuit lui son tour du pays à 40 jours de la présidentielle. Il était hier soir en Floride, à Jacksonville, pour une réunion de campagne tournée vers la communauté des Latinos. Benjamin Fontaine y était pour France Culture.
À l'arrivée d'Air Force One, juste derrière la tribune principale, tous les bras se lèvent, les portables sont sortis pour filmer ou photographier. Donald Trump arrive sur scène devant une foule très blanche et plutôt âgée. Il lance « Je suis ravi de revenir à la maison ». Donald Trump est en terre conquise ici et les sondages se resserrent en sa faveur. Alors il fait dans le classique, critique des médias, moquerie sur Joe Biden. Son discours très centré sur la sécurité lui permet de rappeler sa devise « La loi et l'ordre ». Dans 4 ans, c'est sûr, l'Amérique sera encore plus forte, promet Trump. Jennifer, 34 ans, est sous le charme. C'est mon amour, j'aime Donald Trump pour ce qu'il fait pour faire respecter la loi, pour les militaires, je crois qu'il travaille pour le peuple. Pour l'occasion, Josh est même venu en costume aux couleurs du drapeau américain. Je pense qu'il est celui qui parle aux oubliés de ce pays. Comme souvent, le président se distribue des bons points et rappelle qu'il a géré avec brio la crise du Covid et tout le monde semble approuver. Je crois qu'il a été très bon, même s'il aurait dû fermer les frontières plus tôt. Je crois aussi qu'il nous faudrait de la chloroquine. Le coronavirus a tué 14 000 habitants en Floride. Pourtant, dans la foule hier soir, seuls quelques spectateurs portaient un masque.
Les États-Unis encore, qui pourraient avoir convaincu le Soudan d'indemniser les victimes des attentats de 98 contre des ambassades américaines. Le chef de la diplomatie soudanaise a clairement indiqué hier que son pays était proche d'un accord. Cela pourrait normaliser ses relations avec les États-Unis, Christian Cheneau.
Le Soudan est l'objet de la plus grande attention de la part de l'administration Trump. Le secrétaire d'État Mike Pompeo s'est rendu à la mi-août à Khartoum, une première diplomatique depuis 15 ans. Objectif non dissimulé, arracher une normalisation avec Israël. Mais il y a un préalable, les États-Unis et le Soudan doivent purger un vieux contentieux lié aux attentats contre les ambassades américaines à Nairobi et à Dar es Salaam en 1998. Dans les années 90, Khartoum était alors la capitale de l'islamisme radical et accueillait Oussama Ben Laden, le fondateur d'Al-Qaïda, qui avait investi sa fortune dans le pays. Washington avait placé le Soudan sur la liste noire des pays soutenant le terrorisme. Aujourd'hui, l'ancienne junte, Omar al-Béchir, n'est plus au pouvoir et un gouvernement de transition gère le pays. C'est un plan à plusieurs bandes que propose l'administration Trump. Le Soudan indemnise les familles des victimes des attentats de 1998. Ensuite, Washington retire le pays de sa liste noire et enfin débloque une aide importante, une assistance dont Khartoum a urgemment besoin pour faire face à la chute libre de son économie. Les Émirats arabes unis, qui viennent de signer un traité de paix avec Israël, pourraient aussi apporter leur contribution financière. Resterait alors à mettre en place la dernière étape du plan américain, la normalisation entre le Soudan et l'État hébreu. Or, jusqu'ici, les autorités de Khartoum évoquent cette option, mais pas avant 2022, c'est-à-dire à la fin de la période de transition.
Christian Cheneau, la météo en France métropolitaine, c'est simple, il va pleuvoir pour tout le monde aujourd'hui. Ce matin, comptez 7 à 11 degrés du nord au sud.